c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
La drag queen de la Briochée utilise son art pour faire avancer la cause des personnes trans. Participante à la première saison de Drag Race France, son vrai nom, Maëva Triou, elle dénonce l'invisibilisation des personnes trans. Nous l'avons rencontrée à Paris, mais avant, tiens, je vous propose de l'écouter chanter un peu un extrait d'une adaptation de Voilà, où elle dénonce la grossophobie.
Ne partez pas! Je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
La Briochée, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
Ah, mais là où l'arc-en-ciel se lève, je suis toujours présente. Ça me va.
On pose toujours, à chaque fois que nous avons une nouvelle personne au micro, on demande à la personne quel pronom et quel accord on utilise avec toi.
Pronom féminin, entièrement. Tout fait tout au féminin.
Parfait.
Donc voilà, c'est pas très compliqué.
Bon, alors on utilise ton nom d'artiste,
ouais,
qui est La Briochée, mais tu es Maëva Triou, ouais, née le 16 mars 1991 à
Royan. Ouais.
C'est quoi l'inspiration derrière ce mot qui fait en sorte qu'on t'a appelé La Briochée?
L'aspiration, en fait, c'est surtout venu... Moi, j'avais un autre nom de drag queen avant La Briochée qui était complètement imprononçable et les gens ne savaient pas écrire. C'était Maëve Merchen. Oui, non, vraiment, je pense que c'était pas ma meilleure création, clairement. Et quand je suis rentré au cabaret de Madame Arthur, donc en 2021, quelques mois avant de faire Drag Race... c'est un des plus vieux cabarets travestis de France, considéré comme le premier d'ailleurs en tant que tel. Et je voulais un nom qui soit très très français pour rejoindre ce cabaret et que ça évoque tout l'imaginaire de Pigalle, notamment des danseuses de cancan du début 20e, comme la Goulue, la Môme Fromage, Jeanne Avril, Nini Patte en l'air, Grille d'égout, et en fait me dire La Briochée parmi tous ces noms-là, je trouve que c'est... Il y aurait pu avoir une danseuse de cancan ou une artiste de cet ouais, ancien Pigalle qui aurait pu s'appeler La Briochée. Et après, bah, je suis aussi... donc même si moi, je suis née en Charente-Maritime, mes parents sont originaires de Vendée. Donc, j'ai énormément... Donc, vers Nantes, j'ai énormément de famille là-bas. Et quand j'allais chez mes grands-parents, du coup, notre petit déjeuner qu'on avait, c'était une brioche très moelleuse qui est une spécialité vendéenne et de Nantes. Donc, voilà, c'est aussi un écho à mon passé, à mes origines aussi, voilà. D'accord. Je trouve que ça s'incarne bien aussi dans mon corps et dans mes grosses miches.
Ah oui.
Voilà. Voilà.
Bon, je savais que j'étais pour rigoler dans cette entrevue, ça commence déjà. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le drag ou la drag, comme on dit chez nous?
En fait, c'est pas aussi simple que ça, dans le sens où j'ai fait du drag avant même de savoir que j'en faisais.
Ah bon?
Ouais, j'ai pas eu l'occasion de trop raconter cette histoire, mais quand j'étais à la fac à Poitiers pour des études supérieures, donc avant ma transition, moi j'ai pendant très très longtemps j'ai été fasciné par la musique japonaise et par un mouvement de musique japonaise qui s'appelle le Visual Kei. Donc c'est du rock japonais, mais du glam rock. Et en fait, du coup, tous les membres de ces groupes de rock sont habillés avec des perruques, avec beaucoup de maquillage. Il y a toujours des looks extrêmement androgynes. Il y a toujours même un ou deux membres qui sont ouvertement travestis. Donc, vraiment des drag queens, en fait. Donc finalement, mon premier contact à cette exploration du genre s'est fait avec ce genre musical au Japon. Et quand j'ai commencé à faire de la musique à la fac, du coup, bah, j'ai commencé à m'identifier à ces looks-là, et à vouloir reproduire ça quand j'étais sur scène. Mais comme à l'époque, on n'entendait pas trop le mot drag queen, moi, j'ai absolument pas fait le lien ni le rapprochement, même pas avec le transformisme, parce que pour moi, c'était encore autre chose. Le transformisme, c'est autre chose. C'est le fait d'imiter des personnes. Moi, je faisais pas, j'inventais ma propre identité artistique. Même à cette époque-là, j'avais un nom qui était complètement drag, Nelcha Cosmétique. C'était clairement du drag, mais je le savais pas. Et j'ai participé à une première émission de télé avec ce personnage scénique, Nouvelle Star, en 2013.
Ah, quand même.
Ouais. Et après, j'ai commencé ma transition, j'ai commencé à travailler dans le tourisme, je me suis un peu éloignée de ça, je devais construire mon identité, ma véritable identité de femme au fur et à mesure. Et après, quand j'ai commencé à me sentir bien dans mon identité, dans mon corps, dans ma peau, en règle générale, je commençais à plus me sentir bien dans mon métier, parce que le tourisme, c'était pas fait pour... Enfin, c'était pas ce que je voulais faire, hein, à la base. Et surtout, je commençais à ressentir un manque artistique très grand. Donc, quand je suis arrivé à Paris, je suis vraiment arrivé avec cette volonté de vouloir remonter aussi sur scène. Et du coup, c'est le milieu drag qui m'a offert ça. Et du coup, ça a fait tout de suite tilt et la connexion s'est faite très rapidement pour moi. Parce que dans ma tête, je me suis dit, ah, mais en fait, j'en faisais déjà il y a quelques années, je ne le savais même pas. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était surtout la liberté de cet art de pouvoir vraiment faire ce qu'on veut, de proposer ce qu'on veut sur scène, d'être son propre metteur en scène. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait aussi énormément avec, avec cet art-là. C'était une façon facile pour moi de retrouver la scène et de pouvoir à nouveau m'exprimer sur scène et de pouvoir allier ça au plaisir du costume et du reste en fait.
Tu as un peu répondu à la question, mais je vais quand même y aller de l'avant avec ça. Comment, si ça a joué, comment le drag a joué ou a influencé ton parcours de identitaire?
Ben, en fait... Le drag m'a aidé, certes, d'une certaine façon, mais moi, je sais que je suis trans depuis que j'ai 12 ou 13 ans. Je le sentais même avant, mais je n'étais pas capable de mettre des mots dessus parce que je ne connaissais pas le mot, tout simplement. Et que quand j'entends le mot pour la première fois à mes 13 ans, je comprends tout de suite ce qu'il en est. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai fait du théâtre depuis vraiment ma plus tendre enfance. J'ai fait du théâtre pendant 15 ans et j'ai toujours demandé à avoir des rôles féminins. Toujours. Donc voilà, mais et puis ma prof de théâtre ne m'a jamais empêché de le faire. Donc j'ai toujours joué des rôles féminins ou les quelques fois où c'était des rôles masculins, c'était des rôles très très flamboyants. On avait fait une adaptation de Peter Pan et je jouais Mouche. On avait fait un Mouche, mais complètement, complètement diluré, flamboyant, vraiment pédé, hein, littéralement sur la tête. Hein. Non, mais vraiment, ça, je veux dire, j'avais peut-être quoi, 13-14 ans, mais j'étais parti sur cette vision moi que j'avais du personnage et dans laquelle ma prof m'a jamais mis le moindre carcan. J'ai eu la chance en fait de pouvoir m'explorer assez librement finalement. J'ai jamais eu trop de bâtons dans les roues. Mes parents ont toujours vu ça et comme souvent comme du jeu, innocent à la base. Et puis après quand ils ont vu que c'était quelque chose qui commençait à perdurer, je veux dire quand je suis arrivé à la fac, j'ai commencé à littéralement troquer toute ma garde-robe masculine pour que de la garde-robe féminine. Et c'est vrai que quand du coup je retournais le week-end chez mes parents avec le linge sale, tu sais, qu'on laisse à maman, bon bah, elle commençait à ne laver que des robes, hein, donc à un moment donné.
Ça s'est bien passé avec tes parents ?
Oui, dans l'ensemble, oui. Bah, il y a eu un gros moment où en fait, tout simplement, on n'en parlait pas.
Ouais.
N'en parlait pas. C'est juste qu'on n'en parlait pas.
Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprenaient pas parce que
moi, je n'étais pas prête à en parler.
Ah, d'accord.
Moi, je n'étais pas prête à en parler. Je n'étais pas prête à faire mon coming out trans dans le sens où les seuls exemples médiatiques que j'avais en France, c'était tout le temps des histoires qui finissaient mal. Tout le temps des femmes trans qui se faisaient rejeter par leur famille, etc. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel j'ai culpabilisé pendant longtemps d'avoir douté de l'amour de mes parents. C'est-à-dire, mais en même temps, j'ai pas à m'en vouloir parce que quand on ne montre qu'un pan de l'histoire, on se dit pourquoi nous ça serait différent. Moi, j'étais persuadé en fait que j'allais finir, qu'ils allaient me renier. Parce que je n'avais jamais eu d'exemple inverse. Je n'ai jamais eu d'exemple d'une femme trans qui fait son coming out trans à ses parents et que ses parents, en fait, lui disent bah, on va être là, on va te soutenir et tu restes notre fille. Hein. Je n'ai jamais eu ça comme exemple. Donc, forcément, comment je peux même l'imaginer que ça puisse m'arriver? Et en fait, c'est ce qui s'est passé.
Ton art sert aussi une certaine. Comment je pourrais dire ton art sert aussi à faire avancer des choses. Un art un petit peu politique, est-ce que c'est vrai?
J'ai vraiment découvert, moi, une âme militante en moi en arrivant à Paris. Chose, en fait, que je suis prêt. En fait, chose que je soupçonnais pas. En fait, c'est vrai que quand on découvre avec le drag que tout d'un coup, le fait d'être sur scène, bah, tout d'un coup, les gens nous écoutent, les gens nous regardent. Je veux dire, il y a une espèce de responsabilité qui s'est épanouie en moi où je me dis, bah, en fait, moi, j'aurais pas existé et je serais pas là où j'en suis aujourd'hui sans mes aînés avant qui ont pris la lumière, qui ont pris la parole pour les autres personnes trans, en fait. Et je sais pas, il y a une part de moi qui me dit, en fait, je dirais pas que je me sens redevable, mais ouais, je me sens responsable, en fait, de le faire aussi pour les personnes qui en ont besoin. Et je pense que chaque décennie, chaque génération a besoin de ces exemples, en fait, et de ces représentations. Je suis très touché de me dire que j'ai réussi à en devenir une.
Tu prends la parole, que tu as le courage de le faire, parce que ça prend du courage.
Mais courage, oui, mais c'est aussi parce que j'ai les épaules. Il y a un moment donné aussi, quand on... Je pense que le militantisme, tout le monde n'est pas forcément fait pour ça, déjà, premièrement. Moi, ce qui fait que j'ai ce courage-là, comme tu dis, c'est parce qu'en fait, je suis bien dans ma vie. Quand on a réglé tous ces problèmes-là, quand on a réglé tous ces bagages, en fait, qu'on se traîne constamment, c'est beaucoup plus facile d'aller au-devant des batailles et justement, en sachant, et on le sait très bien, qu'on va se prendre des retours de bâton dans la tronche qui ne vont pas faire du bien. Mais si on est bien là où on est, qu'on est bien avec soi-même et qu'on est bien avec son entourage, les gens, ils peuvent m'insulter, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ceux qui pensent que je ne suis pas une femme, moi, je suis en mode, bah oui, c'est bien. What else? Tu vois, qu'est-ce que ça va changer, en fait? Je m'en fous. En plus, je dis, moi, la prise de parole que je prends, ce n'est pas pour les transphobes, en fait. Oui, je suis là pour lutter pour la transphobie, mais mon discours, il n'a pas pour but d'atteindre les transphobes, parce que eux, de toute façon, tant qu'ils décideront de rester transphobes, ils resteront transphobes. Je pourrais dire ce que je veux, ils ne changeront pas d'avis. Non, mon discours, il est là pour apporter une contre-parole, pour continuer d'affirmer que ce qu'ils font, c'est mal, et que moi, ma parole, par contre, elle est là pour aider les autres personnes trans qui ont besoin d'être assurées, qui ont besoin de se dire « Ok, je ne suis pas toute seule, il y a d'autres personnes qui sont là pour me défendre, il y a d'autres personnes qui sont là pour apporter un contre-discours, et qui sont là, en fait, juste... pour me montrer en fait que je suis normal, en fait, tout simplement.
J'aimerais t'amener sur deux points qui ont été soulignés, que j'ai retenu dans ce que je disais. D'abord, tu as déploré certaines choses, que la place des personnes trans dans le milieu du drag ou de la drag n'est pas si grande que ça, et que peut-être que dans la communauté queer aussi, la place des personnes trans n'est peut-être pas aussi importante qu'elle devrait l'être.
En fait, ce qui est, mais ça, on le remarque avec plein d'autres minorités, c'est que très souvent, on est utilisé comme des tokens, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment, voilà, on va faire un line-up. On a une drag queen trans, ça y est, on va pas en mettre deux, quoi. Je vais donner un exemple tout con, mais Moon et moi, on ne s'est jamais rencontrés en 2 ans et demi, presque bientôt 3 ans, on s'est jamais rencontrés sur un même gig, sur un même booking. On nous a jamais bookés ensemble.
Moon, qui est une autre personne trans.
Moon, qui a fait Drag Race saison 2, qui est une femme trans aussi, comme moi. Donc, et en fait, nos drags sont complètement différents, mais à aucun moment, en fait, on nous a mis ensemble sur un booking. Jamais, on ne s'est jamais rencontrés. J'ai rencontré plein d'autres de mes sœurs en booking de la franchise, mais à chaque fois, on a l'impression que... Il y a vraiment cette sensation de « Ah, on va mettre une femme trans, une seule, c'est déjà bien. » Voilà, maintenant...
Maëva, merci d'avoir participé
avec
à cette
plaisir.
Émission.
Pour joindre l'équipe de l'Heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur, et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
Et puis nous, c'est le temps de dire merci à l'équipe qui est derrière cette émission. Merci à Godéric Trobe et Marie Massé à la recherche. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde et à l'équipe de Canal M, Jean-Sébastien La Liberté, chef de diffusion et chef technique, Philippe Lapointe, directeur d'antenne, et Marjorie Théodore, directrice générale. Je m'appelle Denis Martin Chabot, je suis animateur et réalisateur de L'heure où l'arc-en-ciel se lève.